Docteur Perrier, je suis hépatogastro-entérologue et cancérologue digestif. Et j'ai en charge la chefferie de service du secteur d'oncologie médicale de l'hôpital Saint-Joseph. Donc on est au mois de mars et traditionnellement c'est Mars bleu donc qui s'intéresse au cancer colorectal. Il faut savoir que le cancer colorectal est un cancer malheureusement très fréquent puisqu'on a 47 000 nouveaux cas par an en France et que cette pathologie est responsable de 17 000 décès par an en France. Et on a quand même la possibilité d'assurer un dépistage qui est maintenant très bien organisé depuis plus d'une dizaine d'années en France, mais également en Europe. Il faut bien savoir que le cancer colorectal, comme la plupart des cancers, c'est des cancers qui apparaissent de façon très insidieuse. Vous pouvez tout à fait imaginer que si on fait le parallèle avec d'autres cancers, le cancer du sein, on ne va pas le diagnostiquer quand on a une grosse masse tumorale au niveau du sein. Heureusement, on arrive à faire des mammographies préalablement et faire des diagnostics précoces. Pour la prostate, qui est également un cancer fréquent, donc chez l'homme, on a la possibilité de faire des dosages assez simples, biologiques, avec un taux qui s'appelle le PSA. Donc là aussi, ce n'est pas parce qu'on va avoir mal au niveau du pelvis qu'on va diagnostiquer un cancer de prostate. Ce sera beaucoup plus précoce grâce à tous ces dépistages. Alors si on revient donc sur le sujet Mars bleu, le cancer colorectal, on a donc la possibilité, par rapport à la fréquence que je vous ai expliqué, que je vous ai donné tout à l'heure, de réaliser chez des gens qui ont non pas un risque faible, donc du coup un risque moyen, un test de dépistage, un test immunologique qui est un test de recherche de sang occulte dans les selles. C'est le test qui s'appelait antérieurement Hémoculte, qui était un petit peu plus difficile à faire puisqu'il fallait faire des prélèvements de sel sur 3 jours. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple puisqu'un seul prélèvement est requis pour ce dépistage. Donc ce dépistage est proposé à toute la population française à partir de l'âge de 50 ans et ce jusqu'à 74 ans. Tous les 2 ans. C'est un test qui est toujours un peu difficile à accepter pour les patients, même s'il est relativement simple, ce qui pose véritablement un problème, puisque la compliance n'est malheureusement pas au rendez-vous. Il faut bien avoir à l'esprit que si on voulait gagner des dizaines de milliers de vies, il faudrait qu'on ait une compliance de l'ordre de 50%. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est qu'à 30% de compliance, bien loin de ce qui peut se faire dans d'autres pays. Alors les champions d'Europe, c'est les Pays-Bas, puisqu'ils sont à pratiquement 66% de compliance, donc ce qui est quand même plutôt bien. Et même les Italiens sont à près de 50%, donc ils sont nettement meilleurs que nous. Nous, on est globalement à 30%. Il y a eu une baisse avec la période Covid. Et on a quand même l'impression aujourd'hui que après la période Covid, les gens sont un peu plus soucieux de leur santé. On a l'impression qu'on réinfléchit un peu la tendance à la baisse qu'on avait eue. Après, on ne va pas dire que la période Covid a été idéale, parce qu'on a malheureusement, on est passé de 7% d'obésité à 17% d'obésité sur la période qui a rendu les gens un peu trop sédentaires. Donc on ne va pas crier véritablement victoire sur là-dessus. Alors le test FIT, donc c'est facile, c'est 50-74 ans, il faut vraiment le faire tous les 2 ans parce que si jamais il a été négatif une fois, 2 ans après, on peut quand même récupérer les choses. Et si je mets donc ma casquette de gastro-entérologue en avant, quand on reçoit un patient qui a eu un test FIT positif, c'est très 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 rentable parce que je dirais que normalement on doit attendre 50% de risque de trouver un polype à un stade précoce qu'on peut enlever. Et moi j'ai l'impression que sur toutes les coloscopies que je fais, pratiquement 8 fois sur 10, on va trouver quelque chose. Et on va trouver quelque chose qui est globalement un polype relativement important de 10 à 20 mm, mais qu'on va pouvoir enlever précocement et on va éviter à ces patients d'avoir un cancer à un stade plus élevé. Donc c'est quand même très très rentable. Alors justement, donc je parle de coloscopie, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des patients qui vont plutôt avoir l'obligation de passer directement à la coloscopie, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont un risque élevé. Je vous ai dit que les patients en général donc, ont déjà un risque moyen, hein, c'est la population générale, mais il y a des patients qui ont des risques élevés. Donc ces patients qui ont des risques élevés, c'est souvent par des antécédents familiaux au premier degré. Plus ils sont nombreux, plus le risque augmente, hein, par 2, par 3, voire par 10, pour certaines familles qui ont véritablement des histoires familiales de cancer colorectal. Donc ces gens-là, il faut vraiment les pister et les orienter directement à la coloscopie, avec des âges parfois même très précoces, si jamais les parents ont eu un diagnostic à l'âge de 35 ou 40 ans. Donc il faut commencer les pistages très tôt. Donc ça représente, je dirais, une 20% de la population qu'il faut orienter directement sur la coloscopie. De la même façon, je dirais que des patients qui ont des symptômes un peu inquiétants, avec des troubles du transit, un transit qui se modifie, des douleurs, des saignements dans les selles, une fatigue inexpliquée, il faut probablement aussi les orienter directement sur la réalisation d'une coloscopie par un gastro-entérologue. Alors après, si on revient aussi sur le test FIT, bon, la période donc 50-74 ans, aux États-Unis, ils ont avancé le dépistage à 45 ans. Et comme l'incidence augmente et l'espérance de vie aussi, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas augmenter pour aller jusqu'à 80 ans. Voilà, donc ça c'est un peu dans les tuyaux et dans les réflexions. Donc tout ça c'est bien évidemment primordial parce que si on ne se fait pas dépister, il y a trop de patients qui ne se font pas dépister. Hein, je vous disais que la compliance était quand même relativement faible. On va se retrouver sur des diagnostics beaucoup plus avancés puisque le cancer étant très insidieux, il s'installe tranquillement. Quand les symptômes graves arrivent, ben, souvent on peut avoir déjà des très grosses tumeurs qui peuvent s'occlure, se perforer ou entraîner donc ce qu'on appelle des métastases avec une atteinte ganglionnaire de proximité, mais aussi sur d'autres viscères comme le foie ou le poumon. Et donc là, c'est des prises en charge beaucoup plus lourdes où on arrive quand même à guérir de plus en plus de patients, même en situation avancée, mais quand même au prix d'années de traitement. Chirurgie multiple, chimiothérapie, immunothérapie pour certains, mais avec parfois donc des prises en charge qui peuvent se prolonger et même des pathologies qui vont se chroniciser avec la nécessité de faire des chimiothérapies entre guillemets à vie. Voilà, donc je crois que le message véritablement à faire passer, bah, c'est au niveau prévention, donc déjà de faire tout ce qu'il faut pour éviter d'avoir un problème, donc avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, bah, c'est pas trop de viande rouge, plutôt un régime fibré, calcium, vitamine D, activité physique, pas de tabac, peu d'alcool. Voilà, puisque on a montré aussi qu'il y avait un impact de l'alcool sur cette pathologie. Donc l'activité physique adaptée, effectivement, là aussi, a montré un énorme bénéfice, d'une part en termes de prévention, mais également dans des programmes post-thérapeutiques, ou après un traitement chirurgical d'un cancer du côlon, on a montré qu'il y avait un véritable bénéfice. Pas autant qu'un traitement chimiothérapie adjuvant, mais enfin un bénéfice certain de l'activité physique.